Radio Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Accord de paix RDC-Rwanda signé à Washington pour que la dynamique impulsée par l'administration Trump aboutisse à des réels progrès. Le Rwanda doit notamment retirer ses troupes de la RDC et de faire cesser les abus du M23. C'est ce que pense Human Rights Watch. Cette ONG internationale vient de publier une analyse à ce sujet sur son site web. Il existe un plan quinquennal en RDC pour travailler sur l'élimination du choléra comme problème de santé publique. Il faut juste le mettre en œuvre. C'est la recommandation du directeur adjoint de l'Institut One Health pour l'Afrique au gouvernement congolais. Didier Bompangé l'a dit hier dans un entretien à Radio Kapi. Et puis, clôture mercredi à Mbujimayi d'une formation en ligne en faveur des conseillers communaux de la ville. Formation dispensée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO. C'est pour préparer les participants aux élections municipales, urbaines et locales. Pour en parler, nous recevons Gertrude Ndaya, coordonnatrice de CAFCO Kasaï-Oriental. Madame, Messieurs, bonjour. Des minerais pour la paix, comment faire respecter l'accord entre le Rwanda et l'RDC? C'est le titre de l'analyse publiée sur le site de l'ONG internationale Human Rights Watch par Lewis Mudge, directeur Afrique centrale de cette ONG. Un accord de paix négocié par les États-Unis et signé le 27 juin entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'IRA, intégration économique et le respect de l'intégrité territoriale à la promesse d'investissements occidentaux, écrit-il. S'il s'agit avant tout d'un accord minier, l'accord offre aussi une opportunité pour la paix dans la région. Sa bonne mise en œuvre sera toutefois fonction de la surveillance continue du gouvernement américain et du soutien du Congrès. Explication avec vous, Alain Rumushinj.
Selon Human Rights Watch, pour que la dynamique impulsée par l'administration Trump aboutisse à de réels progrès, le Rwanda doit d'abord être tenu de respecter les principes qu'il a signés en avril, notamment retirer ses troupes de la RDC et de faire cesser les abus du M23 qui ne doit plus être en mesure de terroriser les civils dans les villes clés. Le respect de ces engagements devrait être évalué par des observateurs internationaux indépendants et en connaissance de la tendance du gouvernement rwandais au déni et à la duplicité. La pression pour faire respecter les principes clés de l'accord ne viendra pas du Rwanda, où le parti au pouvoir ne tolère aucune dissidence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières nationales. Le gouvernement congolais devrait également assumer ses propres responsabilités. Son soutien continu à ses milices alliées compromettra l'accord. Au cours de cette crise, nous avons également documenté la coordination et le soutien apporté par l'armée congolaise aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, dont certains combattants et commandants ont été responsables du génocide rwandais de 94. Cela doit cesser. La RDC doit démanteler ce groupe une fois pour toutes, note Human Rights Watch.
Entre-temps, sur le terrain au nord Kivu, le poste frontière terrestre de Bunagana entre l'Ouganda et la RDC est de nouveau opérationnel. Dans une cérémonie officielle et discrète, les autorités ougandaises ont procédé hier jeudi à la réouverture officielle de ce poste en dehors de tout cadre formel avec Kinshasa. Ce, alors que la zone côté congolais demeure sous le contrôle du mouvement rebelle AFC M23, situé entre le district de Kisoro au sud-ouest de l'Ouganda et le territoire de Rutshuru du côté de la RDC. Bunagana était resté fermé à tout mouvement migratoire officiel depuis juin 2022. C'était à la suite de l'occupation de la zone par les rebelles du M23. Jeudi matin déjà, les premiers camions et véhicules des particuliers ont franchi ce poste, marquant un retour inattendu des échanges transfrontaliers, indiquent les témoins de cet événement joints sur place. Sur leur poste X, on peut lire les leaders de l'FC M23 remerciant le président ougandais qui, selon eux, a pris la décision de rouvrir tous les postes frontaliers avec le Congo oriental. Restons au nord Kivu. L'ONG des droits humains Badilika, qui veut dire changement, dresse un bilan de plus de 9163 crimes graves ayant causé plus de 6000 morts dans le territoire de Rutshuru entre 1996 et 2023. Ceci ressort d'un rapport publié fin juin 2025 par cette organisation, dont une copie est parvenue hier à Radio Kapi. Selon le coordonnateur de cette organisation, certaines données sont une actualisation du rapport Mapping des Nations Unies. Le but est, selon lui, de rappeler, mais aussi de lutter contre l'impunité des crimes graves perpétrés dans cette zone en ce temps de crise sécuritaire. On écoute Patrick Muvunga, coordonnateur de l'ONG Badilika.
Badilika s'est engagé dans un travail d'exercice en fait de donner une photographie des crimes perpétrés en territoire de Rutshuru. Ce rapport donne la synthèse et des analyses des crimes qui sont répertoriés, non seulement par les organisations, mais aussi fait recours aux crimes déjà rapportés dans le rapport mapping, et tente d'établir des responsabilités des acteurs impliqués dans la commission des incidents. Ces rapports se tournent vers l'avenir en identifiant plusieurs chemins que doit emprunter la société congolaise afin d'empêcher que de telles atrocités ne se produisent pas. Et ce rapport est une voie de victimes qui compte sur le soutien de la communauté internationale et autres mécanismes régionaux à la quête essentielle de justice pour garantir une véritable paix durable en territoire de Rutshuru ou alors la République démocratique du Congo.
Notez à propos de ces 9163 atteintes aux droits humains rapportées par Badilika que trois mouvements rebelles ayant des liens avec le Rwanda arrivent en tête de liste comme auteurs. Il s'agit de l'AFDEL, suivi de l'AFCM23 et le FDLR rwandais. Par ailleurs, les rebelles des EDF ont développé des nouvelles stratégies pour leur financement. C'est notamment en faisant payer des taxes aux agriculteurs pour accéder aux champs, des rançons pour la libération des otages ou encore la commercialisation de cacao. C'est le constat fait par l'ONG internationale Bridgeway Foundation lors d'une conférence de presse mercredi à Bunia. Face à ces défis, cette organisation dit avoir mis en place des mécanismes pour contrecarrer les actions de ce groupe armé régulièrement accusé de massacrer des civils dans la région. L'un des responsables de cette ONG, Sekombi Katondolo, explique au micro de Isaac Remoyope.
Depuis un certain moment, ils commencent à identifier la population, à exiger des taxes de 10 dollars par mois pour accéder à ce champ, à libérer les otages moyennant des rançons. Ils volent le cacao qui est déjà séché. On commence à constater ça. Tout simplement parce qu'il y a eu des directives données pour qu'eux aussi commencent à lever les fonds au niveau local. Donc c'est des nouvelles approches qu'ils ont développées, c'est des nouvelles stratégies qu'ils ont développées que nous devons contrecarrer le plus tôt possible. Ce que nous faisons, nous documentons. Ça c'est un, et à part ça, nous sensibilisons la population. Nous avons vu, par exemple, vers Mukakila et Mungamba, ils sont en train d'évangéliser la population sur l'islamisme radical. Et nous, à contrepartie, nous utilisons les vrais imams pour dire à la population, ça c'est pas l'islam. Ça c'est qui vous apprend, ça c'est autre chose, c'est une autre religion, c'est pas l'islam. L'islam ne veut pas ça.
Pour rappel, cette ONG collabore avec les services de sécurité dans le cadre des opérations Chuja contre les EDF dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Parlons santé à présent. Le directeur adjoint de l'Institut One Health pour l'Afrique, Didier Bompangé, encourage le gouvernement à mettre en œuvre le plan multisectoriel stratégique visant à stopper la progression du choléra à travers la RDC. Il a formulé cette recommandation hier dans un entretien exclusif accordé à Radio Capi. Médecin de formation et de profession, il déplore le manque de financement de ce plan qui empêche, selon lui, d'enrayer efficacement ce problème de santé publique. Didier Bompangé est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Il existe un plan quinquennal en RDC pour travailler l'élimination du choléra comme un problème de santé publique. Ce plan consiste à faire travailler autour d'une coordination multisectorielle les différents secteurs qui doivent contribuer à la mise en œuvre des stratégies qui ont été édictées et codifiées dans ce document qui s'appelle Plan multisectoriel stratégique d'élimination du choléra. Ces différentes stratégies consistent à travailler à la fois dans les zones endémiques, c'est-à-dire là où le choléra ne s'interrompt pas du tout tout au long de l'année, d'un côté, et de l'autre, travailler dans les zones où la maladie survient de manière sporadique. Et donc il y a une série de mesures, mais ces mesures ont été jusqu'à présent très partiellement mises en œuvre. Nous n'avons pas suffisamment fait tout ce que nous avons nous-mêmes décidé de faire et que nous avons consigné dans les différents plans, à la fois plan stratégique qui agit dans la durée et aussi le plan de riposte multisectoriel que nous avons décidé le 20 mai dernier à l'hôtel Sultani.
Rendons-nous à Lubumbashi. Justicia Asbel alerte sur le décès des dizaines de détenus suite à la pénurie d'eau potable à la prison centrale de Kasapa. Dans un communiqué de presse publié mardi, cette ONG souligne que les détenus manquent des produits pharmaceutiques nécessaires pour soigner les maladies d'origine hydrique. Elle exhorte les autorités à agir en toute urgence pour faire face à cette situation. Paulin Munanga nous en dit plus.
Dans ses communiqués de presse, Justicia Asbel, une organisation de promotion et protection des droits de l'homme et du droit humanitaire basée en RDC, s'est dit profondément attristée d'apprendre que la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi a connu une rupture de la desserte en eau potable. Cette situation, poursuit les communiqués, serait à la base d'une épidémie ayant causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. Justicia Asbel indique que pour des raisons encore non élucidées, la coupure d'eau est intervenue du 14 au 20 juin dernier. Et pendant cette période, la majorité des prisonniers utilisaient les eaux stagnantes des tranchées de la prison pour des besoins quotidiens. L'ONG précise que les petits forages qui se trouvent à la direction de la prison n'arrivent pas à ravitailler l'ensemble de la population carcérale de Kasapa, qui est évaluée à plus de 2500 prisonniers. Face à cette situation, Justicia Asbel invite les autorités nationales et provinciales à agir en toute urgence en dotant la prison des produits pharmaceutiques nécessaires aux malades. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Et du côté du Sud Kivu, situation difficile pour plus de 380 ménages victimes des inondations survenues le 3 mai après des pluies diluviennes sur les villages de Bushushu et Nyamukubi dans le territoire de Kale. Ces familles sont actuellement sur le site Amani où ils ont été relocalisés. Selon le président de ce site, cette situation est la conséquence de la vétusté des bâches distribuées à ces personnes par les humanitaires pour l'aménagement d'abris provisoires. À ce problème d'abris s'ajoute le manque de moyens pour répondre à leurs besoins vitaux. Les champs détruits lors de cette catastrophe sont devenus improductifs, rendant la vie encore plus difficile, notamment pour les femmes et les enfants. Le président de ce site explique la situation. Baloumé Baavou est au micro de Ronéline Tibonera.
Les abris dans lesquels nous vivons sont déjà isés à Lambo. Ont même pendant la saison des pluies ou la saison sèche, nous manquons même où vivre. Dans ces mêmes abris, les gens dorment par terre par manque de nattes, manque de draps, manque de quoi. Nous avons aussi même les problèmes de manque de nourriture. Nous manquons même quoi manger parce que nous n'avons plus de champs à cultiver. Nos champs ont été emportés par l'érosion, par la catastrophe. Dans nos familles, il y a déjà des enfants qui présentent déjà les signes de la malnutrition par manque à manger. Il y a déjà des enfants qui sont mal nourris. Cela nous amène vraiment à être dans des problèmes très sérieux. Et pour cela, s'ajoute encore un problème de manque de substances. Donc, nous n'avons pas de moyens comment résoudre à nos propres besoins personnels.
Rappelons que les inondations survenues le 3 mai 2023 avaient fait officiellement plus de 438 morts, plus de 5000 disparus et des milliers de sinistrés. Autre nouvelle, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial du Maniema s'engagent à regarder dans la même direction pour le développement et la stabilité de la province. Ils l'ont fait savoir cette semaine au cours d'un séminaire organisé par le secrétariat national de renforcement des capacités SENAREC avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Selon les organisateurs, l'objectif est d'éviter les crises à répétition entre ces deux institutions telles que vécues lors de la précédente législature. Florence Kizalunga.
Après ces assises, ces deux institutions sont pour la lutte contre toute forme d'antivalère susceptible de freiner l'élan de développement de la province. À ce sujet, le gouverneur Moussa Kabankoubi s'est ainsi exprimé.
Donc nous saluons l'accompagnement du SENAREC et du PNUD pour la matérialisation de ce séminaire. Parce que nous sommes conscients que quel que soit le potentiel que nous pouvons avoir dans notre province, si nous n'avons pas un personnel qualifié, nous ne saurons jamais transformer ces potentiels en richesse.
L'Assemblée provinciale promet à son tour l'accompagnement au gouvernement provincial afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs pour le bien de la population. Kibungi Mutanga Junior, son président.
L'Assemblée provinciale est là pour accompagner le gouvernement provincial à bien faire son travail pour l'intérêt de la population.
De son côté, le coordonnateur national adjoint du Sénarec a salué l'engagement pris par ces deux institutions. Paulé Katamba.
Nous avons déjà sillonné dans plusieurs provinces, mais le climat que nous avons trouvé ici entre le gouverneur et le président, la collaboration existe et elle est très étroite. Ça nous a impressionnés. Et...
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nous sommes en République centrafricaine. Les groupes rebelles centrafricains de l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, et Retour, Réclamation et Réhabilitation 3R n'existent plus, conformément à l'accord de paix signé avec le gouvernement le 19 avril, qui doit entrer en vigueur ce vendredi 11 juillet. L'un et l'autre ont été officiellement dissous par leurs responsables respectifs lors d'une cérémonie organisée à Bangui.
L'invité.
Nous sommes au Kasaï oriental. Parlons de la clôture mercredi de la formation en ligne des conseillers communaux de 5 communes de Mbujimayi. Ces travaux de 2 jours ont été organisés par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO dans le but de préparer les participantes aux élections municipales, urbaines et locales. Gertrude Ndaya, coordonnatrice de CAFCO Kasaï oriental et l'invitée de ce journal, elle s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, Madame Gertrude Ndaya. Les conseillers communaux suivent une formation au bureau de CAFCO. Sur quoi porte la formation?
La formation porte sur plusieurs modules. Le premier jour, on a vu un module sur la planification, la conception, l'élaboration, la rédaction d'un projet de plan de développement. Je voudrais rappeler ici que cette activité est en train de se passer simultanément dans 3 villes, donc Kinshasa, Mbujimayi et Kindu. Et c'est une activité qui est menée à l'intention des conseillers communaux. C'est une activité qui se passe pendant 2 jours, comme je vous l'ai dit déjà la première journée. Vous savez qu'AFCO est en train d'insister sur la participation accrue des femmes dans les instances de prise de décision. Et les élections sont une opportunité justement pour que les femmes puissent aussi s'intéresser et être en mesure de compétir avec les hommes. Le formateur a présenté les conditions qui peuvent faire qu'ils puissent réussir au contentieux électoral, parce qu'on n'y va pas comme ça. Il y a des conditions, il y a des preuves qu'il faut réunir, etc.
La formation se tient dans 3 villes, Kinshasa, Mbujimayi et Kindu. Pourquoi les choix de ces 3 villes?
Le choix, c'est au niveau du siège, au niveau de CAFCO national. Kinshasa, là, il faut se dire que c'est le siège des institutions. C'est normal que les conseillers municipaux puissent être ciblés. Mbujimayi, Maniema, c'est peut-être par rapport aux difficultés qui ont été constatées lors des élections de 2023. Donc il y a eu des choses qu'on a vraiment déplorées, notamment les élections de 2023 ont été entachées de beaucoup de violences vis-à-vis des femmes. On l'a vu ici chez nous en Mbujimayi. Et puis il faut relever aussi peut-être les stéréotypes qui pèsent encore dans les têtes de population par rapport à la participation des femmes au niveau des élections, parce que souvent on dit la politique c'est l'affaire des hommes, etc. Donc il faut qu'on puisse évoluer dans la conception de l'exercice du pouvoir entre les hommes et les femmes.
Quel est l'objectif poursuivi par CAFCO en organisant cette formation à l'intention des conseillers communaux?
Ok, donc dans les prochains mois ou je ne sais pas, on va devoir procéder à l'élection des bourgmestres, les bourgmestres adjoints, les maires adjoints, les conseillers urbains. Et les conseillers communaux sont les grands électeurs à ce stade-là. CAFCO a trouvé qu'il était vraiment judicieux de préparer ces grands électeurs pour ces élections qui vont venir, afin de les capaciter de façon à ce qu'ils puissent faire des choix judicieux. qui puisse choisir des personnalités qui ont la conscience, qui ont ce besoin de développer leurs entités. Parce que nous avons déjà vécu plusieurs échéances électorales, mais la façon dont les choix sont faits sur les personnalités à qui nous déléguons notre pouvoir, dans beaucoup de cas, les gens après regrettent. Alors maintenant, on ne voudrait pas que les conseillers trouvent le prétexte de n'avoir pas été préparés. Donc, on est en train de les mettre devant leurs responsabilités pour que les prochaines élections soient les meilleures possibles. C'est vis-à-vis de sa conscience. Je pense que là, les mots d'ordre du parti, c'est pas ça qui doit primer sur la conscience individuelle, sur les convictions personnelles. Ce qu'on est en train de faire justement, on ne forme pas les partis, mais on forme les conseillers communaux en tant que personne, en tant qu'individu. Et on les met devant leurs responsabilités vis-à-vis de leurs entités, vis-à-vis de la nation.
Madame Gertrude Ndaya, je vous remercie.
Merci beaucoup, Maman Esther.
Notez que cette interview a été réalisée pendant le déroulement de cette formation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.